Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le secrétaire général de la CFDT, premier syndicat du pays. Laurent Berger est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir, bienvenue et bonne année à vous, Laurent Berger.
Bonsoir, bonne année.
Qu'est-ce que vous souhaitez à Emmanuel Macron et au gouvernement pour cette année 2021 ?
Si je devais adresser un souhait, il ne serait pas forcément d'abord au président de la République, mais à l'ensemble du pays. Mais si je devais souhaiter quelque chose, c'est qu'il comprenne, le président de la République, que lorsqu'on veut agir contre une pandémie comme on est en train de subir, contre ses conséquences économiques et sociales, on est plus fort quand on est quand on associe les corps intermédiaires, les collectivités territoriales pour lutter contre.
Donc de la jouer moins en solo.
Oui, de la jouer moins en solo et moins donner le sentiment qu'on cherche la toute-puissance de l'État quand l'État tout seul ne peut pas tout.
Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a mis en garde le gouvernement en ce début d'année. Il y a beaucoup de colère dans le pays, dit-il. Vous êtes en colère, vous, Laurent Berger, ou pas ?
Non, je ne suis pas en colère, mais je suis très inquiet.
Vous la sentez, cette colère ?
Oui, on la sent. En tout cas, on sent beaucoup de fatigue psychologique. On sent aussi de la colère, notamment de la colère de ceux qui ont été exposés lors du premier confinement, qui le sont depuis et qui ne sont pas reconnus. Par exemple, mardi, les travailleurs de l'aide à domicile, du médico-social, avec la CFDT, vont se mobiliser devant le ministère de la Santé parce qu'ils vont dire « c'est pas normal que nous n'ayons pas eu les revalorisations liées au Ségur, c'est pas normal que nous n'ayons pas toujours eu les primes alors que nous avons été là auprès des personnes âgées, auprès des personnes dépendantes parce qu'elles subissent un handicap, etc. » Donc oui, il y a beaucoup de ressentiment dans ce pays aujourd'hui.
Ça veut dire que les légions d'honneur ne suffisent pas ?
Non, les légions d'honneur, je crois que d'entendre l'État reconnaître l'engagement de professionnels, l'engagement de citoyens, c'est extrêmement important. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait de la reconnaissance pour ces salariés sur leur fiche de paye et aussi dans leur déroulement de carrière. Et puis pour d'autres, ce qui compte, c'est qu'on puisse les rassurer en disant oui, il y a une période extrêmement difficile et c'est de la faute objectivement de personne, mais on prend soin de vous, ce qui est le cas aujourd'hui hein, pour nombre de salariés, mais pour d'autres, malheureusement, ce n'est pas le cas.
Alors, il ne vous a pas échappé, j'imagine, Laurent Berger, que le chef de l'État n'a pas prononcé le mot « retraite » lors de ses vœux le 31 décembre. C'est un oubli de sa part ou c'est un message, selon vous ?
Je pense qu'il a peut-être compris, j'espère, que le sujet des retraites n'est pas d'actualité. Ce dont on parle, on a une crise sanitaire qui écrase tout. Tous les sujets. Et pourtant, en dessous, il y a quoi ? Il y a des difficultés économiques terribles, des difficultés sociales monstrueuses et beaucoup de fatigue psychologique. Et donc, ce n'est pas le moment de remettre le sujet des retraites sur la table.
On vous a dit quelque chose ou pas, vous, là-dessus ?
Non, on nous a rien dit. Mais moi, je continue de dire depuis le début que si le gouvernement était tenté de mettre une réforme des retraites, notamment une réforme paramétrique, c'est-à-dire financière des retraites sur la table, il y aurait une opposition frontale de la CFDT parce que ce n'est pas le sujet. On a aujourd'hui 600 000 chômeurs supplémentaires depuis le début de cette épidémie, beaucoup de destruction d'emplois. Le sujet, c'est l'emploi, le travail.
Donc vous dites pas de ça, pas de réforme des retraites avant 2022, c'est pas le sujet pour vous.
Oui,
vous voulez pas entendre parler.
Non.
Et sur la réforme de l'assurance chômage, elle doit entrer en vigueur en principe le 1er avril. On vous dit quoi alors ?
Il y a une concertation qui doit avoir lieu en mi-janvier. On a compris que le gouvernement voulait y aller. Cette réforme, lorsqu'elle est apparue avant l'épidémie, elle était injuste. Aujourd'hui, elle est totalement inadaptée. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que, ok, rediscutons des règles d'indemnisation du chômage, mais regardons comment ces règles, elles prennent en compte le fait que retrouver un travail aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile que tout un tas de contrats, y compris de contrats courts, ont disparu et qu'il y a de plus en plus de chômeurs. Et donc l'idée, ça ne va pas être de sanctionner les demandeurs d'emploi, c'est de les accompagner et de les aider à retrouver un travail.
Vous voulez pas de dégressivité, par exemple ?
Non, la dégressivité, mais imaginons la dégressivité. La dégressivité, c'est l'idée que, pour les cadres notamment, ce serait plus facile de retrouver du travail. C'était vrai, peut-être, mais ce n'est plus le cas.
Ouais.
C'est plus le cas. Donc cette réforme, elle est inadaptée aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on demande, c'est rediscuter à partir d'une page blanche au gouvernement. Je prends un autre exemple.
Ça revient à demander le retrait de ce qui est sur la table aujourd'hui.
Oui, mais justement, je crois qu'on perd trop de temps avec des mots. Moi, évidemment, ça veut dire que cette réforme, elle n'est plus adaptée, donc il faut
tout réécrire.
Oui, il faudrait tout réécrire. Regardez, la période d'affiliation pour avoir le droit à l'assurance chômage. La réforme qui a été proposée...
Aujourd'hui, c'est 4 mois.
C'est 4 mois, mais c'était proposé de 6 mois. C'est plus du tout adapté. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui subissent, et notamment les jeunes, qui subissent une entrée sur le marché du travail qui est faite malheureusement de chômage. Et si on leur restreint les droits à l'assurance chômage et l'entrée à l'assurance chômage, eh bien on va avoir des gens qui vont se paupériser. Et c'est malheureusement le cas aujourd'hui.
À propos d'emploi, le gouvernement a décidé de prolonger les mesures d'aide, donc les incitations à l'embauche pour les jeunes, les moins de 26 ans en CDD de plus de 3 mois ou en CDI. En revanche, c'est toujours non pour le RSA jeune. Le gouvernement se trompe là-dessus?
Oui, le gouvernement fait beaucoup sur la question des jeunes, il faut le reconnaître. Parce que
la il y a des choses qui sont faites.
Oui, bien sûr, les aides à l'embauche des jeunes, les aides à l'apprentissage. On a tous collectivement, je crois, à se réjouir d'un apprentissage qui a encore augmenté le nombre de jeunes en apprentissage. Mais sur le RSA jeune, c'est une logique dogmatique. Je crois qu'il faut entendre que lorsqu'on est jeune, on a besoin évidemment d'un accompagnement pour s'insérer dans la vie professionnelle, mais on a aussi besoin d'une aide financière. Et une autre manière de le faire, c'est d'élargir, c'est de rendre universelle la garantie jeune. La garantie jeune, c'est ce dispositif où vous avez une allocation et vous bénéficiez d'un accompagnement pour aller vers un emploi, vers une formation. Eh bien, il faut l'universaliser, c'est-à-dire tous les jeunes doivent pouvoir bénéficier de cette garantie jeune. Le gouvernement ne perdra pas la face en disant pas que c'est un RSA jeune, mais on aura une solution pour les jeunes.
Donc on le fasse sur le fond, même si on change le nom du flacon. On est en pleine polémique sur la vaccination en France en ce moment, Laurent Berger. Est-ce qu'il faut vacciner les salariés qui le souhaitent en entreprise, au sein de leur boîte ?
Oui, je crois, ça se fait déjà pour la grippe. Ça se fait déjà pour la grippe, il faut que ce soit sur la base du volontariat, que ceux qui ne le souhaitent pas ne voient aucune conséquence à leur choix, mais ça peut être facilitant. On a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui le font pour la grippe et les salariés le demandent et d'ailleurs, des fois, interrogent sur à quel moment le vaccin va arriver pour qu'on puisse le faire. Donc, tout est une question de volontariat.
2021, ce sera une année placée sous le signe du télétravail. Épidémie oblige, il y a un nouveau protocole qui va entrer en vigueur demain jeudi. Les salariés en télétravail qu'ils souhaitent pourront revenir une fois par semaine en entreprise s'ils en éprouvent le besoin. Pour vous, c'est un bon texte, c'est un début, c'est quoi ?
Le 100% de télétravail, ça use. Ça n'use pas tout le monde, mais il y a beaucoup de salariés qui disent on n'en peut plus, on voudrait retourner au travail parce que c'est du lien social, le travail c'est aussi du collectif. Et donc c'est bien de pouvoir donner la possibilité pour ceux qui le souhaitent de revenir. Mais là on est dans une période exceptionnelle de crise sanitaire. Demain, il faudra que le télétravail soit négocié dans les entreprises sur la base de l'accord que nous avons signé avec les organisations patronales en décembre, qui est pas 100% de télétravail, qui est un télétravail choisi et avec beaucoup de temps collectif qui reste dans l'entreprise. Mais là, c'est bien d'assouplir à une seule condition. C'est que la question sanitaire ne nous oblige pas dans une semaine à dire l'inverse. Mmh. Et c'est ça qui est terrible dans ce début d'année, c'est l'incertitude qui règne. Et dans le cas de l'incertitude, il y a deux choses qui sont absolument indispensables. La vérité, puisque vous parlez de vaccination, il faut qu'on sache la vérité.
Vous avez l'impression qu'on nous la cache ?
Non, pas forcément.
Ou qu'on en manque de transparence ?
En tout cas, on ne peut pas, après s'être planté sur les masques, après s'être planté sur les tests, se planter sur la vaccination. La vaccination, c'est la garantie de pouvoir retrouver une vie normale. Et je crois qu'il y a beaucoup de citoyens, beaucoup de travailleurs qui, dans cette période, y aspirent.
Michelin a présenté son plan de compétitivité aujourd'hui, un plan qui prévoit une réduction de 10% de ses effectifs en France, suppression jusqu'à 2300 postes dans les 3 ans, sans départ contraint, précise la direction. C'est un mal à accepter pour préparer l'avenir, pour faire face à la concurrence, pour rester compétitif, ou c'est un casus belli ça pour vous ?
C'est d'abord une stupéfaction, pour une raison simple, on s'attendait sur le secteur tertiaire, chez Michelin à des annonces. Sur la question industrielle, la majorité des sites fonctionnent à plein aujourd'hui et ont même eu besoin de recours d'intérimaires. On peut comprendre qu'une entreprise ait besoin de s'adapter. Il y a une période pour le faire. Cette période, ça tombe objectivement, disons-le, très très mal. Dans un moment où les chiffres du chômage augmentent, annoncés dans un grand groupe industriel, 2400 suppressions d'emplois, c'est énorme. Et donc maintenant, le Michelin dit pas de suppression, pas de départ.
On recréera autant de postes.
Oui, c'est vrai, il y a des engagements. Je vais vous dire franchement, on est habitué avec Michelin à ce que Michelin tienne un certain nombre de ses engagements. Donc on va les contraindre, mais attention, ils ont dit pas de fermeture de site, ils ont dit pas de départ contraint, ils ont dit on réinvestira pour la création d'emplois sur les bassins d'emploi. On dit chiche, mais si c'est pas le cas, la parole de la direction de Michelin sera gravement mise en cause.
En tout cas, vous dites que c'est pas le moment, vous.
Non, mais c'est vrai que c'est pas le moment. Avouez que nous, on avait appelé à ce qu'un certain nombre d'entreprises qui sont dans les phases de restructuration ne le fassent pas en pleine période de crise sanitaire où on a malheureusement beaucoup de destruction d'emplois. Mmh. Il y a des entreprises qui malheureusement vont fermer dans cette période, notamment dans les secteurs qui sont durement impactés comme l'hôtellerie et la restauration. Que des entreprises qui auraient pu attendre le fassent maintenant, c'est dramatique. Après, j'en appelle du dialogue social à Michelin. S'il ne passe pas par un accord cadre pour regarder comment ça doit se faire, il y aura, je crois, beaucoup de perturbations.
Est-ce qu'il y a en France aujourd'hui, selon vous, des entreprises qui surfent et qui profitent de cette vague sanitaire pour faire le ménage dans leurs effectifs ?
Oui, il y en a quelques-unes, oui, bien sûr. On a vu Bridgestone avant, avant les fêtes. Et il y en a certaines qui doivent surfer là-dessus, de la même manière qu'il y a des entreprises qui se portent plutôt bien. Et donc, l'idée, c'est de soutenir les entreprises qui sont en grave difficulté, de dire à celles qui peuvent attendre, en termes d'évolution, d'attendre, et de sanctionner durement celles qui, en gros, se délestent, en espérant que ça ne se verra pas trop, parce que la crise est terrible.
Il y en a un qui commence bien l'année, c'est le PDG de General Electric, Larry Culp, à qui le groupe a promis un bonus de 47 millions de dollars et qui pourrait même grimper à 230 millions de dollars s'il atteint ses objectifs financiers. Dans le même temps, le groupe supprime 13 000 postes dans le monde, un plan qui touche en France les sites de Belfort et de Villeurbanne. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez ça? Parce que, évidemment...
On peut entendre
les uns les autres se plaindre, dire on va faire, on ne laissera pas faire. Et puis au bout du compte, ça se passe toujours comme ça.
Ah mais je dis qu'il y en a assez. Il y en a assez. Voilà pourquoi je crois que maintenant, il faut des règles extrêmement claires, et notamment, on peut le faire en France, des règles extrêmement claires en termes de partage de la valeur dans les entreprises. Ça veut dire qu'il faut regarder comment on répartit la richesse produite autrement et comment on limite les rémunérations qui sont complètement anormales.
Compris dans le privé, donc.
Mais bien sûr, on peut très bien aller vers beaucoup plus de transparence sur les rémunérations et avec des écarts maximales de rémunération dans les entreprises.
C'est quoi la fourchette
de 1 à 20, par exemple, on peut imaginer. Et on peut imaginer aussi que les entreprises qui, dans cette période, ne versent pas de rémunération, de surrémunération à leurs dirigeants, de bonus, notamment dans ce cadre-là.
On a l'impression que ça, on a déjà entendu 100 fois et qu'en fait, ça ne se fait jamais.
Justement, pour ne pas le réentendre, il faut légiférer. Parce que les codes de bonne conduite n'ont pas fonctionné. Et donc, on ne peut pas attendre que de l'autorégulation de la part des entreprises et des grands patrons. Il faut maintenant des règles claires.
Donc vous dites au gouvernement, on veut une loi
Il y a des parlementaires très récemment, qui ont fait des propositions très claires sur ce sujet-là. Ça avait été un sujet qui avait été abordé dans le cadre de la loi Pacte, sur lequel on n'a pas été au bout, notamment en termes de transparence, mais aussi d'écart maximal. Je crois qu'il est temps d'y arriver.
Vous pensez que le MEDEF va vous suivre là-dessus ?
Non, mais on n'est pas obligé d'attendre que le MEDEF nous suive. Je crois qu'il y a une responsabilité politique à ce que la valeur ajoutée créée dans une entreprise, elle soit mieux répartie et qu'il n'y ait plus ces abus qui sont même une insulte à l'ensemble parfois des autres chefs d'entreprise, de PME, etc., que je ne confonds pas avec ces gougnafiers, excusez-moi d'utiliser ce terme. Et donc, je crois que tout le monde aurait à y gagner d'assainir la situation.
Ça fait 6 mois, et c'est ma dernière question, que Jean Castex a remplacé Édouard Philippe à Matignon. Qu'est-ce que vous retenez de la méthode Castex?
De la discussion de la discussion, très franchement, le dialogue social, c'est extrêmement important. À une seule condition, c'est que ce n'est pas simplement de l'écoute. C'est aussi de donner la possibilité aux acteurs économiques et sociaux, c'est-à-dire aux organisations syndicales et aux organisations patronales, de s'impliquer. Et là, trop souvent, on est en bout de chaîne, on est informé des choix qui vont être faits et pas suffisamment consulté.
On vous écoute pour la forme
après,
et pas pour le fond.
Je vais mettre tout de suite... Oui, on est parfois, mais pas toujours. Et je vais moduler mon propos, notamment avec la ministre du Travail, je le dis. On a de la confrontation quasiment toutes les semaines avec Mme Borne et l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Et c'est vrai qu'on arrive à faire bouger les lignes.
Il vous a envoyé ses vœux, le Premier ministre ?
Non, mais...
Non ? Et le chef de l'État ?
Non plus, mais j'ai pas fini d'ouvrir mon courrier.
Ah, ça doit être ça. Merci beaucoup Laurent Berger d'être venu ce soir dans RTL Soir. À suivre l'œil de Valérie Trierweiler. Elle va à son tour nous présenter ses vœux, à son tour et à sa manière, forcément.
RTL Soir.